Mesdames et messieurs, bonsoir. Céline Minard est la première à choisir le fauteuil côté jardin, je crois, la plupart des...
Ouais, j'aime bien
et ça n'est pas la moindre, ça n'est pas la moindre de ses singularités. Je le disais à l'instant à Céline, que je rencontre pour la toute première fois, et dont j'ai découvert les œuvres à l'occasion de cette rencontre. Je suis enchanté de la rencontrer, précisément parce que c'est quelqu'un, c'est un écrivain d'extrêmement singulier, pour ce que j'ai pu en lire jusqu'ici. Et je pense que la suite de ce que je lirai ne fera que me conforter dans cette impression. J'aurais pu la connaître plus tôt, Céline Minard, parce que notre archiviste au théâtre, Juliette, la connaît depuis longtemps. Leur amitié remonte au temps du lycée, voire du collège. Et ça faisait un certain temps que Juliette cherchait à me faire lire les œuvres de Céline Minard, obstinément, patiemment, comme une archiviste peut le faire. Et je n'avais jamais vraiment le temps de m'y immerger. Alors Juliette, dans sa sagesse, a tenté de me faire commencer par des œuvres plus courtes, plus minces, comme celle-ci, dont je ne sais même pas prononcer le titre, Bastard Battle, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles le titre est difficile à lire et à lire à haute voix. C'est tout simplement que, on en reparlera peut-être, c'est une langue très très particulière. C'est un livre mince, vous voyez, j'aurais pu faire l'effort de le lire tout de suite, mais j'avais tant d'autres auteurs à rencontrer avant Céline Minard. Et puis, il a fallu quand même que je m'y mette, parce qu'après tout, Céline Minard était invitée dans le cadre de nos rencontres sur la bibliothèque idéale. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en lisant le petit programme des bibliothèques de l'Odéon, que j'avais affaire à quelqu'un de décidément singulier. Là où les autres auteurs avaient choisi de présenter deux ou trois œuvres autour d'un thème plutôt générique ou abstrait, comme la solitude, par exemple, Céline Minard a choisi comme thème, je ne pense pas qu'on y restera, mais c'est un point de départ, elle a choisi les grands pieds. Alors, c'est, voilà, les grands pieds, c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel, je crois, auquel nous sommes nombreux à pouvoir nous identifier. Mais les grands pieds, je pense, s'éclairaient assez vite à la lumière du choix des œuvres dont Céline Minard souhaitait parler, et qui là aussi est un choix extrêmement singulier. Alors, ça tient peut-être à des raisons historiques de ces rencontres. Avant de changer un peu de formule cette année, de s'appeler « Ma bibliothèque idéale » et de proposer 3-4 livres, enfin plusieurs livres, une petite sélection, on demandait auparavant aux auteurs de n'en choisir qu'un, de n'en retenir qu'un dans le choix proposé par notre partenaire, Garnier Flammarion, de lire des extraits de l'œuvre, et après nous discutions d'une seule œuvre. Avec ma bibliothèque idéale, vous le savez sans doute, nous avons demandé aux auteurs de choisir plusieurs œuvres et de les regrouper autour d'un thème qui leur tient à cœur. Le thème, donc les grands pieds, un peu étrange, on en conviendra, je pense, sans trop de mal, va s'éclairer à la lumière de ce choix-ci. Le premier livre retenu par Céline Minard, c'est « Observations faites dans les Pyrénées » pour servir de suite à des observations sur les Alpes. « Observations faites dans les Pyrénées », le voici. C'est un très très joli volume dans cette nouvelle collection de Garnier Flammarion, qui publie dans la même série, vous le savez, différents ouvrages particuliers d'auteurs parfois connus comme Balzac ou Baudelaire ou Champfort ou Plutarque, parfois des petites œuvres célèbres mais que personne n'a trop lues comme Rivarol de l'Université de la langue française dont on a pu parler ici avec Daniela Ferrière. Dans cette même collection, donc, Céline Minard a présenté brièvement mais de façon dense les observations faites dans les Pyrénées de Louis Ramon de Carbonnière. C'est un livre superbe, et ce n'est pas par hasard, je pense, que des contemporains, dont Buffon, ont pu comparer le style de Louis Ramon à celui de Rousseau. Mais ce n'est pas le seul point commun de Louis Ramon avec Rousseau, je pense, comme on le verra, et ce n'est pas non plus son seul point commun avec Céline Minard, qui partage avec Louis Ramon, et qui l'a prouvé, un goût pour Rousseau qui a nourri, irrigué, imprégné son premier roman publié, introuvable aujourd'hui, R, qui a été publié donc il y a 11 ans aux éditions Compact, qui est malheureusement introuvable, sinon d'occasion, à des prix prohibitifs, etc. J'espère qu'il sera réédité un jour. C'est un livre que je dois d'abord pu lire à Juliette. Je l'en remercie encore. Là aussi, on en reparlera. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Pour compléter les observations faites dans les Pyrénées, deux ouvrages assez rares également. Le premier, Aldo Leopold, Almanach d'un comté des sables, A Sand County Almanach en américain. C'est un ouvrage de 1948 que je ne connaissais absolument pas. Donc là, je vous dois de l'avoir découvert. C'est absolument remarquable. Et, petite particularité, c'est un ouvrage publié dans la GF tout court, pas dans la nouvelle collection. Étonnant classique. Enfin, elle ne s'appelle pas Étonnant classique, d'ailleurs, cette collection. Mais vous voyez, la différence de présentation est assez éloquente. Ça, c'est dans la collection GF tout à fait classique. Ça ne coûte que 8 euros et c'est superbement illustré, ce qui est rare dans la GF. Mais ce livre ne se comprend pas sans ces illustrations. Et puis enfin, et là ça tombe bien avec la programmation de l'Odéon, une des plus belles nouvelles, quasiment un roman, de Tchekhov, La Steppe. Je dis que ça tombe bien avec la programmation parce que ça résonne à plus d'un titre avec Ivanov, qui se donne actuellement en grande salle. Là aussi, peut-être, au hasard de la conversation, à bâton rompu, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, vous connaissez peut-être la règle, sinon je vous la rappelle. J'ignore absolument quels extraits Céline Minard a pu choisir. Je ne sais pas si nous pourrons tous les lire. Nous allons nous entretenir, improviser une conversation à bâton rompu, en partant des grands pieds, mais je doute qu'on y reste très très longtemps. Céline Minard, je vous passe la parole et je vous souhaite une fois encore la bienvenue parce que je suis vraiment ravi de vous rencontrer.
C'est très gentil, merci. Les grands pieds, c'est quand même... finalement, c'est un titre qui sonne bizarrement, mais au début, c'était la petite bibliothèque des grands pieds. Ça sonnait mieux que la bibliothèque idéale des grands pieds. Et c'est parti des grands pieds parce que je pense que Ramon de Carbonnière chaussait à peu près du 46. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déduit, des premières lectures que j'ai faites de Ramon, qui était très rare à l'époque, qu'il l'est moins maintenant, grâce à la GF, qui étaient ses carnets. C'était pas les observations, c'était les carnets. Et c'était Dominique Poncet qui m'avait envoyé, qui lui-même a écrit un livre qui s'appelle Les Pentes Fabuleuses, qui m'avait envoyé il y a 10 ou 15 ans maintenant ses carnets en photocopie, parce que c'était vraiment quelque chose d'une grande rareté qui doit être publié à la bibliothèque de Lourdes et qui a été épuisée depuis très longtemps. Je pense qu'il y a une réédition récente de ça. Et dans ces carnets, il y a nombre de mesures et il y a la mesure de sa foulée. Et c'est super grand. C'est presque un mètre. Donc, et en calculant avec Dominique Poncet, c'était livré à ce jeu, enfin, en calculant la foulée, plus le nombre de pas, plus etc., on en avait conclu qu'il chaussait du 46 minimum. Ce qui était déjà pas mal. Donc, c'était un premier pas pour cette bibliothèque, cette mesure du pied. Et en fait, en lisant le texte et le récit de ses courses, où il peut marcher entre 8, quand il a marché 8 heures, il se repose un peu, mais c'est pas, ça va encore. Hein. C'est quand il a marché 19 heures que là, ça commence à peser un peu. Mmh. Et donc, c'était quand même des marcheurs qui n'ont pas... Bon, ils sont quand même très forts par rapport à ce qu'on peut parcourir maintenant.
Est-ce que vous le connaissiez déjà avant d'écrire R?
Eh bien, je ne sais plus, ça devait être assez contemporain parce que, justement, Dominique m'avait envoyé Ramon, peut-être parce qu'il avait lu le manuscrit de R. Mmh.
Je vous pose la question parce que R comme Rousseau, mais ça pourrait aussi être R comme Ramon, finalement. Là, en l'occurrence, pour des raisons, c'était explicite, hein, c'est plus nettement R comme Rousseau. C'est vraiment un livre qui est de part en part pénétré de marche. C'est un livre de marcheur. C'est d'ailleurs un livre comme... On y reviendra aussi, mais tous les livres que j'ai pu lire jusqu'ici sont des livres qui ont ceci de particulier, qu'ils réclame à chaque fois du lecteur que le lecteur dégage du livre même la règle d'abord, la règle d'échange, la règle d'imprégnation de la lecture. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est comme avec les amis. Nous savons tous que nos amis sont différents, nous savons tous qu'ils ont différentes façons d'être, qu'ils sont plus ou moins susceptibles, d'un abord plus ou moins simple, plus ou moins direct, et que donc ce qu'on appelle l'amitié, en fait, ça se diffracte en différentes amitiés qui ont tout un style, une teneur différente. Là, en l'occurrence, ce qu'on dit de l'amitié, on pourrait le dire de la lecture des livres de Céline Minard. Ce sont chacun de ces livres demande à être approché un peu différemment. Ils sont tous passionnants, ils vous enveloppent tous, mais il faut accepter que le livre vous enveloppe à sa façon unique. Alors, il y a aussi une façon Minard qu'on reconnaît un peu de livre en livre, mais chacun des livres demande à être apprivoisé, ou vous invite à l'apprivoiser de façon particulière. Et R, par exemple, qui est un livre en plusieurs morceaux, d'ailleurs, en plusieurs parties, en plusieurs sections, d'accord, présente, vous voyez, au milieu de sa page 167, une sorte de carte graphique qui est incompréhensible sans son mode d'emploi, d'ailleurs, qui précède dans les pages précédentes. C'est à la fois une carte, un graphique et aussi un schéma d'évolution, mais aussi une partition, parce qu'il y a aussi de la musique, en fait, une musique très très particulière qui est inscrite dans ce plan extrêmement concis. Et ce plan, ce schéma, c'est un schéma de marche, un schéma de marcheur. Une bonne moitié de ce texte est en fait le journal d'un marcheur, et d'un marcheur qui se met en marche dans les Alpes de Savoie, aux alentours de Chambéry, pas loin du lac Léman, passant par Annecy sans s'y attarder, d'un marcheur qui est lointain cousin de Rousseau, dont il porte le patronyme par hasard, d'où le R, et qui en quelque sorte décide de non pas mettre ses pas dans les pas de Rousseau, parce qu'il ne va pas tout à fait suivre le même chemin, mais qui marche comme Rousseau et comme laisser venir à lui ou laisser monter en lui ce que Rousseau n'aura pas pu accomplir peut-être dans sa propre marche. Donc c'est à la fois imiter Rousseau ou s'inspirer de Rousseau, mais pour accomplir quelque chose que Rousseau, pour sa part, n'aura pas pu accomplir. C'est donc un livre de marcheurs et de marcheurs dans les montagnes. Là-dessus, vous retenez, pour votre bibliothèque idéale, comme premier titre, le livre d'un marcheur dans les montagnes. Les montagnes, en l'occurrence, n'étant pas les Alpes, que Ramon connaissait très bien aussi, mais les Pyrénées. Voilà. La parenté entre les deux livres, la parenté n'est même pas souterraine. Ce sont des textes extrêmement différents. L'un est romanesque, l'autre ne l'est pas. L'un est un livre de paysagiste. L'autre a une construction plus complexe, disons moins monochrome. Mais le rapport entre les deux livres est tellement étroit que j'avais vraiment le sentiment que vous l'aviez peut-être déjà lu alors que vous écriviez R.
Non, je n'avais pas lu les observations. Mm-hmm. Mais par contre, il y a effectivement dans les carnets quelque chose qui est déjà de l'ordre de la notation de marche. Et c'est vrai que dans ce livre-là, c'est aussi le mélange entre le rapport exact du déroulement de la marche et les mesures des monts et l'observation des bestioles qui passent et le fait de croiser des bergers, de regarder comment est faite la cuillère qui sert à faire le fromage, etc. Enfin, de tout regarder. Il y a une forte pulsion scopique et de connaissances dans les parcours de Ramon, beaucoup plus que dans R, qui rêve plus volontiers. Et en tout cas, c'est vrai que cette histoire de marche et de création du paysage par la marche et grâce à la marche, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et surtout que ça va puiser loin aussi dans l'histoire du paysage et de sa formation. En tout cas, dans Ramon, c'est très net. et cette complexité en fait du regard qui est porté dans les plis des montagnes. Mais je sais pas, je peux peut-être lire des bouts de trucs.
Ah, très volontiers. Ouais.
Parce que je voulais vous lire à la fois la brèche de Roland, enfin Gavarnie, monter à la brèche, et puis après faire la maladetta, mais c'était peut-être un peu...
Pour une seule course, oui.
Oui. Je vais peut-être vous faire que la maladetta, c'est déjà pas mal. Hein. Mm-hmm. Donc, il dit, j'avais résolu de voir la maladetta. Mes courses dans la partie la plus élevée des Pyrénées, l'examen de ses bases, la vue de sa forme et de ses glaces, m'avaient persuadé que je chercherais en vain dans cette chaîne un mont primitif à la fois plus élevé, plus étendu, et qui domina une plus grande masse de montagnes, en sorte que je considérais son sommet comme un point presque unique, et d'où je distinguerais le mieux qu'il fût possible la relation des montagnes secondaires avec les primitives. Les rapports des gens du pays étaient très propres à me confirmer dans mon opinion, et sa réputation d'inaccessibilité n'avait pas de quoi m'effrayer. Elle n'a point de pâturage à porter des troupeaux, l'Isard n'habite que sa région inférieure, les vallées voisines offrent des communications qui dispensent de s'élever sur ces rochers. Il se pouvait donc fort bien qu'elle ne fût réputée inaccessible que parce que le berger, le chasseur et le voyageur n'avaient eu nul intérêt à chercher si elle ne l'était point. Donc il y va. Il accompagne des gens et puis ils sont obligés de s'arrêter en bas parce qu'il pleut pendant 2 jours. Le deuxième jour, vers la fin de la nuit, la pluie me parut avoir cessé. J'allais reconnaître l'état du ciel. Je vis le nuage déchiré, le vent d'Espagne le chassait avec une violence extrême et de temps en temps, les étoiles se montraient entre ses lambeaux. J'en conçus bonne espérance et convaincu que le midi se nettoyait, je décidai mes guides à partir. Quiconque n'a point pratiqué les montagnes du premier ordre se formera difficilement une juste idée de ce qui dédommage des fatigues que l'on y éprouve et des dangers que l'on y court. Il se figurera encore moins que ces fatigues mêmes n'y sont pas sans plaisir et que ces dangers ont des charmes. Et il ne pourra s'expliquer l'attrait qui ramène sans cesse celui qui les connaît s'il ne se rappelle que l'homme, par sa nature, aime à vaincre des obstacles, que son caractère le porte à chercher des périls et surtout des aventures, que c'est une propriété des montagnes de contenir dans le moindre espace et de présenter dans le moindre temps les aspects de régions diverses, les phénomènes de climat différents, de rapprocher des événements que sépareraient de longs intervalles, d'alimenter avec confusion cette avidité de sentir et de connaître, passion primitive et inextinguible de l'homme qui naît de la perfectibilité et la développe, passion plus grande que lui, qui embrasse plus qu'il ne peut saisir, devine plus qu'il ne peut comprendre, pressent plus qu'il ne peut prévoir, franchit sans cesse les bornes de sa fragile et courte existence, l'égare souvent sur le but de sa vie, mais au moins l'endort sur ses misères et l'étourdit sur sa brièveté. Lorsque je partis, le temps n'était rien moins qu'assuré. Donc ils montent, ils arrivent proche des glaces et là, ils s'arrêtent un peu pour regarder. Ils observent comment les glaces sont disposées, et puis, cela fait, je ne songeais plus qu'à monter au sommet de la montagne avec le compagnon qui me restait. Mais, obligé de chausser mes crampons, je vis qu'il n'avait point les siens. Le chasseur en était chargé. Les aller chercher nous faisait perdre une heure, et s'en passer était impossible. Je ne lui permis point de tenter de me suivre, et il demeura au bord de la région des glaces, assis sur une roche et renonçant avec peine à voir les hauteurs que j'allais parcourir, car cet homme a une âme ardente et un sentiment extraordinaire des grandes choses. Je partis donc seul, après avoir examiné la forme de la montagne et la disposition des neiges, la situation des rochers et la direction des pentes, pour être sûr de retrouver mon chemin, en cas que les nuages qui passaient sur ma tête avec une extrême vitesse et qui m'enveloppaient quelquefois vinssent à s'accumuler subitement sur la montagne. Ce qu'ils vont faire. Et... Il pense qu'il arrive au sommet, mais il est entouré de brouillard. Donc, j'étais, selon mon estimation, au sommet de la montagne ou à peu de distance. Mais dans l'impossibilité d'aller plus avant et de vérifier ma situation, privé par les nuages qui arrivaient du midi et rasaient la cime de la vue de la région méridionale et orientale, et ne pouvant promener mes regards que sur les monts accumulés au nord et au couchant, je m'arrêtai donc et, me mettant sous les rochers, à l'abri de l'agitation des airs, je demeurai quelque temps assis au milieu du conflit des deux parties de l'atmosphère que séparait la montagne. Là, seul, dans un lieu que le pied de l'homme n'a jamais foulé, parvenu à cette hauteur qui me rappelait celle des Alpes et le temps où je les parcourais, en face du ciel, que du haut de leur sommet je n'avais vu que ce Rhin et qui m'a si rarement souri à la cime des Pyrénées, dans ce lugubre silence, interrompu de loin en loin par le vent qui passe dans les cieux comme nous sur la terre, ma pensée se livrait aux souvenirs du passé. Il me semblait le dominer comme le monde, et mon âme, resserrée par le profond sentiment des ravages du temps, ne trouvait que ruine en moi comme autour de moi. De quel côté que je tournasse la vue, rien d'entier, rien que les siècles n'aient ébranlé, pas une forme que le temps n'ait altérée, pas un lieu dont il n'ait changé l'aspect et l'usage. Partout un monde nouveau né des débris de l'ancien monde. Mais combien, de la hauteur où je me trouvais, ces renversements étaient différents du désordre. À mesure que m'élevant, j'avais vu descendre les monts qui m'environnaient, les fausses apparences s'évanouissaient. Où l'on ne voit qu'entassement, je voyais des distributions, tout se classait, et l'ordre prenait la place de la confusion. C'est ainsi que, hors des événements, l'âme isolée et tranquille en débrouille aisément le chaos. Tout était pour elle hasard et accident aussi longtemps qu'elle y fut plongée. Les causes lui ont échappé au milieu du tumulte des effets, et elle n'a vu que fortuité dans les fécondes conséquences de leur enchaînement. Mais lui, en haut, il voit les choses de façon tout à fait cohérente. Alors, et en fait, là-dedans, il y a un peu le, c'est un peu comme Horace Bénédicte de Saussure qui est monté avant que Ramon... oui, d'ailleurs, avant que Ramon visite les Alpes... Saussure arrive à monter au Mont Blanc, mais c'est presque contemporain. Et il décrit Saussure une fois qu'il est au sommet du Mont Blanc, il comprend le monde, quoi. Il comprend la plaine, la structure de la roche, etc. Donc il y a un peu ça chez Ramon. Et en même temps, il dira plus loin que ce qu'il a vu très cohérent au sommet du Pic du Midi. Au sommet de la Maladeta, il le voit à nouveau comme un chaos parce que le côté des roches n'est pas pris par les neiges. Donc c'est à nouveau très chaotique et il a du mal à lire le paysage. Mais il est toujours dans cette tentative de prendre assez de recul pour voir un tout cohérent là où depuis la plaine on ne voit rien, ou qu'un chaos, quoi. Et en même temps, c'est pas vraiment un homme des sommets. Il dit souvent, d'ailleurs il n'est pas au sommet de la Maladeta, il l'a raté le sommet, je crois qu'il va le rater jusqu'à la fin. Mmh. Mais il dit souvent, il faudrait presque s'intéresser plus au port, c'est-à-dire au passage entre les vallées françaises et espagnoles, et que là il y a des trésors d'observation à faire au niveau faune, flore, etc., plutôt qu'aller directement vouloir aller au sommet. Et c'est voilà, quelqu'un qui observe avec finesse. Et dans ce passage là, voilà, je pense que lui considère la montagne comme une espèce de condensation géographique et historique, et quand il dit que c'est une propriété des montagnes de contenir dans le moindre espace et de présenter dans le moindre temps les aspects de régions diverses, il est là, quand il analyse la montagne, il analyse vraiment le monde entier, et il y a quelque chose de... C'est très condensé pour lui, l'espace montagnard. C'est un condensé d'une géographie beaucoup plus globale, je pense.
Mais ce qui est frappant, en effet, dans les passages que vous avez lus de cette ascension ratée de la Maladeta, c'est qu'en effet, l'objectif n'est pas d'atteindre le sommet en soi, l'objectif n'est pas d'ordre sportif du tout.
Non.
Et c'est comme si l'objectif était découvert en cours de course, parce que vous l'avez dit, il note les détails, et en notant les détails, c'est comme s'il passait d'un régime de temps à un autre, de la météorologie, qui est ce qu'il y a de plus changeant, à la géologie, qui est ce qu'il y a de plus imposant, de plus durable, comme s'il passait d'une logique, chaotique du court terme ou de la petite échelle à une logique imposante, monumentale.
Oui, et en même temps, il est fait jouer toutes les deux, puisqu'il est tout le temps pris dans le climat, effectivement, comme on l'est en montagne, le climat est très changeant, et ça peut être une année en une seule journée, enfin, plus toutes les saisons en une seule journée, et le temps géologique très, très, évidemment, incommensurable au nôtre, lui, il le fait en accéléré, quoi. Il arrive au sommet de la Maladetta et il voit tout comme un film à l'envers, quoi. Il voit comment les... Voilà, c'est là. Je vois des montagnes centrales qui régissent tout ce qui les environne. Seules, elles se soutiennent par elles-mêmes et appuient sur leur propre fondement le faisceau vertical de leur bande constituante. Les escarpements tournés vers elles, les couches secondaires dont ces escarpements trahissent la disposition, fléchis autour d'elles, inclinés sur le côté, écartés d'elles par des vallons qui dessinent leurs contours. Tout me force de remplir, selon un plan que toutes ces directions révèlent, des lacunes qui indiquent les altérations qu'il a subies. Je rappelle sur la cime et sur le flanc de ces monts la partie de leur couche dont les fragments sont actuellement épars sur la face de nos continents et dans les profondeurs de la mer. Je comble les précipices, je remplis les intervalles, je fais disparaître les ravages du temps, je ne vois plus qu'un mont unique où l'on voit un groupe de monts et à la place d'une chaîne de sommités, des sommités confusément entassées, un petit nombre de pics aigus élevés sur une base énorme. Donc là, il se fait un film super accéléré de comment c'est faite la montagne et il le fait à l'envers. Et il dit qu'en fait, à plusieurs reprises, il dit qu'il n'y a pas plus rapide que la montagne et que ce temps géologique. Et que là, il voit énormément le travail du temps, le travail même que d'habitude on ne voit pas. C'est aussi ça que révèle le point de vue surplombant ou semi-surplombant des presque sommets qu'il arrive à atteindre. Et c'est très paradoxal, parce qu'il y a à la fois, dans une journée... En fait, la montagne accélère tout. Elle accélère la géographie, puisqu'on passe en passant dans les différents rochers, pelouses, etc., ayant passé par la plaine, on ramasse tout, quoi. Et elle ramasse aussi les différentes temporalités, y compris géologiques, qu'elle met à portée d'œil humain. Je pense que c'est pour ça que Ramon s'est beaucoup occupé de la montagne qu'il y avait là, quelque chose d'hyper plié qui était à déplier très déplié qui était à replier.
Oui, parce que.
Mais les chemins sont très pliés aussi.
En lisant le livre, Les Pyrénées, le premier chapitre est une description en volume, hein, en volumétrie, de l'ensemble des Pyrénées, qui est une description d'ensemble remarquable, vraiment remarquable, plutôt de géomètre dans l'espace que de géologue d'ailleurs, avant qu'il le parcourt pas à pas, des Pyrénées, donc qui sont clairement situées entre la France et l'Espagne, entre deux mers, enfin entre l'Atlantique et la Méditerranée. Un lieu d'intervalle, un lieu de passage et d'intervalle. Et je me suis dit que, curieusement, ce livre, ces observations faites dans les Pyrénées, étaient vraiment à l'image de l'objet qu'il décrivait, parce qu'il était lui aussi comme dans un intervalle. Ça explique peut-être pourquoi ce livre, qui est magnifique, a été si longtemps oublié. Il l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, hein. Merci à l'AGF, mais c'est un livre que peu de gens lisent. Ce livre est dans cet intervalle qu'on appelle souvent pré-romantique, hein, entre la fin du 18e et le début du 19e, où effectivement, d'ailleurs, vous en parliez à l'instant, à propos de géologie, on passe d'une géologie qui est presque plutôt descriptive ou picturale à une géologie qui commence à avoir effectivement le sens temporel, le sens historique du film de millions d'années qui a produit l'objet géologique présent. La géologie du temps de Ramon est encore en train d'osciller entre deux écoles, l'école catastrophiste pour qui, le profil des montagnes, les grands volumes de la croûte terrestre s'explique par une série de, par exemple, de déluges et de séismes, hein, tel qu'on peut le lire dans la Bible, et une école qui, disons, est plus sensible au métamorphisme, au pouvoir de transformation du temps long et de l'usure et de l'érosion, ce genre de choses. Et ce que Ramon découvre en décrivant, c'est comment, d'une certaine façon, les mécanismes explicatifs se réconcilient ensemble, mais à condition de les prendre non pas dans l'espace, mais dans le temps long. Il est à la charnière, il est sur un point critique, sur un col, si j'ose dire, entre deux conceptions de la géologie.
Un port, oui. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'il préfère, lui, être sur un port, sur effectivement les passages un peu plus bas. Oui. Et il est dans les interstices à plein d'endroits, effectivement, au niveau scientifique, géologique, mais il est aussi dans l'écriture, à un moment où... il mélange vraiment les observations purement... Il fait des expériences longtemps sur le baromètre, il mesure les monts, il relève les points géodésiques, il fait des triangulations, il est vraiment aussi dans cette démarche-là de rigueur scientifique, et en même temps, il a des grandes envolées de langage qui sont ou pré-romantiques ou franchement romantiques, et c'est assez étonnant. Okay. Mais je pense que c'est une de ces... sa modernité, le fait qu'on peut le lire maintenant avec assez d'aisance, c'est justement cette espèce de tissu interstitiel qui n'arrête pas de revenir et de reprendre. C'est aussi plié que la montagne, effectivement.
Mais oui, parce que c'est un livre qui se place effectivement dans la continuité, enfin en pointillé, qui va de Rousseau, disons, à Senancour, Obermann. C'est comme s'il y avait... dans la littérature, constitution d'un regard ou d'un sujet proprement de la montagne, en quelque sorte. Comme si la montagne aidait à constituer un type de regard particulier. Alors, chez Senancour, par exemple, ça va devenir beaucoup plus dans l'effusion, dans la mélancolie, le désespoir romantique, la petitesse de l'homme, etc. Chez Rousseau, bon, le sujet montagnard chez Rousseau, c'est un sujet de thèse, si j'ose dire. C'est plutôt... complexe, c'est énorme. Et là, d'une certaine façon, on a encore une autre figure qui est particulière à Ramon.
Mais lui, il n'a pas le vertige, hein, parce que Rousseau, il a bien le vertige quand même. Hein. Ouais. Il dit, ah oui, les chemins raboteux, tout ça, mais en même temps, il est obligé de se coucher pour regarder en bas, parce que c'est un peu... Donc lui, non, il est très résistant par rapport à l'altitude. D'ailleurs, il n'a pas le mal des montagnes, il le dit.
Oui. Ben, Rousseau n'est pas un ascensionniste.
Non, pas
vraiment. C'est un marcheur, mais c'est... Ce n'est pas, il a connu la montagne, mais il l'a traversée dans les vallées, effectivement. Et Ramon, lui, il connaît, il a le sens du vertical. Il a cette aspiration à monter, hein, à monter le plus haut possible pour ouvrir le panorama le plus largement possible. Comme R, c'est un point commun qu'il a avec R, qui lui aussi a du mal à monter. Il a une expérience de Varap qui est traumatisante,
mais
particulièrement.
Lui, il est plutôt du côté de Rousseau.
Mais lui aussi, il aime bien l'ampleur panoramique.
Ouais.
Et il fournit une formule, d'ailleurs, assez utile pour calculer la distance à laquelle porte le regard quand on est en altitude. Voilà. Ça, c'est dans R.
Je me souviens pas de la formule, par contre.
La formule est assez compliquée, mais enfin, elle lie votre altitude en mètres à la distance de l'horizon. Ça, je m'en souviens.
Ouais.
C'est quelque part là-dedans.
C'est une formule d'Arnaud Schmidt, en fait.
Voilà, ce qui lui permet de calculer que son regard porte à 150 km environ, et qu'il en est très très fier. Très très fier. Mais curieusement, en feuilletant Ramon, cet homme qui était un grand marcheur qui chaussait du 46... Finalement, c'est comme s'il oubliait l'expérience même de la marche dans la masse des informations qu'il recueille. Il est tellement occupé à absorber, à dévorer ce qui passe, à cueillir le moindre détail, de la cuillère en bois au nuage qui passe, en passant par les replis d'un relief, qu'il en oublie presque l'expérience même de ce ressassement du marcheur. Alors que dans R, par exemple, c'est une expérience qui est fondatrice.
Oui. C'est pas. Oui. Non, mais lui, c'est pas. Lui, Ramon, c'est un vrai marcheur, en fait. Mm-hmm. Il s'occupe pas de savoir si ça dégage une petite musique dans sa tête ou pas. Ou... Oui.
Peut-être qu'il.
C'est pas un marcheur qui s'observe marcher, en fait. C'est vraiment un moyen. En même temps, il dit quand même que c'est très. Agréable, que cet effort est agréable, qu'on y trouve du plaisir, et puis même dans les dangers, etc., ce que j'ai lu tout à l'heure. Et puis aussi que quand on redescend, on mange avec les bergers, et que c'est excellent, c'est toujours excellent. Mmh. Et puis les lits en paille, c'est très confortable, etc. Donc il y a beaucoup de plaisir de marche quand même là-dedans. Mais c'est vrai qu'il ne s'observe pas, contrairement aux marcheurs contemporains, il ne s'observe pas marcher. Enfin, lui s'observe marcher. Mais c'est bien d'après Rousseau.
Il s'observe marcher de façon... il n'arrête pas de s'observer marcher. Il s'observe tellement marcher qu'il fait part... Je vous parlais de ces livres qui au fur et à mesure, vous font entrer dans leurs règles. Vous voyez, il vous fournit le bref journal de sa marche où, pour le dire très très vite et grossièrement, hein, pardon, c'est liminaire, mais sur la colonne de gauche, vous avez une succession de notations qui sont plutôt d'ordre objectif. Sur la colonne de droite, vous avez une succession de notations qui sont plutôt d'ordre subjectif, pour le dire vite. Hein. Et comme vous le voyez, là, le trait vertical qui les sépare est poreux, et les points de porosité sont nettement marqués, et le sens dans lequel s'opère la circulation d'une colonne à l'autre, dans cette espèce de relevé en partie double de l'expérience de la marche, le sens de circulation est nettement marqué également. Ce marcheur-là s'observe marcher, nous fait part de son corps de marcheur, du rythme de la marche et de la moindre pensée fugace. On a une sorte de météorologie, en quelque sorte, de la pensée de R, qui peut être soit très fugace, soit totalement obsessionnelle. Donc vous inventez aussi un système, R invente un système de notation qui lui permet de condenser en une seule ligne une séquence obsessionnelle de pensée qui peut durer 20 minutes ou une demi-heure. Vous voyez ?
C'est moins des pensées que des ritournelles. C'est effectivement ce qui se passe quand on marche longtemps et qu'on commence à être un peu bourré d'endomorphine, ce qui commence à être très agréable. C'est les rythmes qui se, enfin bon, et qui se mettent en place, quoi, et qui changent pas si souvent que ça. Et mais en montagne, ça change plus qu'en plaine à cause des changements de montées, des descentes. Mais la notation, c'était... Oui, enfin, je ne vais pas parler de R.
Mais si, pourquoi pas? On est là pour ça. Vas-y, justement.
Moi, je croyais qu'on était là pour...
Mais non. On est là pour parler de ce qu'on veut, de ce que vous voulez.
Et donc, la notation, effectivement, qui condense 20 minutes de... ça vient d'une notation de danse, comme la carte au milieu, d'ailleurs, qui prend dans la voix... Voilà, et qui permet avec des signes, mais c'est des signes que j'ai pas inventés, que j'ai détournés des notations de la Labanne, qui permettent avec deux petites barres comme ça et deux points, ça veut dire répéter. Il y a le nombre de fois inscrit en ordonnée. Voilà, et là c'est, je sais plus, 300, 3000.
Oui, ça peut passer par plusieurs milliers de fois le ressassement de la même pensée ou de la même...
De la même phrase rythmique. Lui, il n'a pas ce genre de phénomène. Oui, il n'a pas trouvé à le noter.
Oui, et il n'a, à vrai dire, même pas cherché à inventer un système de notation qui permettrait d'inventer une équivalence, pour ainsi dire, graphique, entre une expérience de marche, entre une expérience temporelle et une expérience et un donné visuel ou spatial.
Il y a des cartes normalement. Je peux le dire. Oui. Il y a des cartes normalement dans ce livre-là. Il y en a deux et il y a un relevé des profils de la chaîne des Pyrénées qu'il a fait lui et c'est tellement fin qu'on pourrait presque dire c'est un sentier, cette espèce de ligne brisée qui reprend comme ça, mais c'est très précis. Mais c'est peut-être son relevé de marche à lui.
Peut-être.
Parce que ça fait vraiment qu'un... Alors que c'est une chaîne de montagne, et c'est vraiment que le petit bord là, comme ça.
Mais une fois encore, par exemple, rien que le premier chapitre, qui convertit entièrement en une langue descriptive, hein, avec sujet, verbe, complément, tout ce que vous voudrez, une langue qui convertit en langue la masse de la montagne, c'est superbe. Et moi je trouve ça superbe. C'est comme un auteur de nouveau roman qui aurait vécu au XVIIIe siècle, si vous voulez. Ça donne ce sentiment-là. Il y a une précision descriptive au présent, comme ça, au pur présent, d'où toute présence de sujet s'efface, et qui vous offre une description objective, entre guillemets. Vous pourriez quasiment, en suivant la description, si vous savez dessiner, vous pouvez, au fur et à mesure, tracer ce qu'il vous décrit et obtenir un relief des Pyrénées assez exact. C'est une langue superbe et d'autant plus impressionnante que ça ne l'empêche pas d'être lyrique par moments.
Voilà, et moi j'ai pensé un peu à la poésie objective, la poésie concrète américaine en fait en le lisant. Alors c'est évidemment c'est mes anachronismes de lectrice. Mais il y a quelque chose comme ça, parce que c'est très froid, c'est très factuel, et en même temps, des fois, ça part dans un rythme ternaire un peu accéléré. Il y a des longs brins, il y a des trucs très courts tout à coup. Et comme c'est factuel et pas du tout. Je sais pas, il parle assez peu de sentiments ou de. Même franchement pas beaucoup et voilà et ça et quand même ça fait arriver un monde quoi assez complexe et un réseau de ramifications parce qu'il a fait aussi beaucoup de c'était plutôt un botaniste lui donc il a fait beaucoup d'observations sur les petites plantes comme Léopold.
Oui, alors justement, vous parliez, oui, c'est bien, c'est les transitions. C'est, vous parliez de l'objectivisme, de la poésie objectiviste américaine. Aldo Léopold n'était pas un poète objectiviste, mais c'était certainement un poète tout court, d'une certaine façon. Alors, une fois encore, je le découvre grâce à vous, Aldo Léopold. Vous en avez peut-être entendu parler de cet auteur. Je le prends, je le lis, c'est un très très beau livre, il est très bien traduit aussi par Anna Gibson, c'est une très très belle traduction, très très élégante et très très chantante en même temps. C'est un livre très dépouillé, extrêmement simple, d'une construction tout à fait limpide, et qui est préfacé, je découvre, ça ne m'étonne pas que Leclésio est un lecteur et un admirateur de Léopold depuis longtemps. Mais il y a une courte préface de Aldo Léopold qui explique ce qu'est ce livre et pourquoi il est divisé en deux parties, enfin trois plus exactement, deux parties de nature pour une partie de théorie, mais de théorie chargée de tout ce qu'il a décrit auparavant. Et Léopold date cette préface du 4 mars 1948. Il est mort 6 semaines plus tard. Il est mort 6 semaines plus tard d'une crise cardiaque en aidant ses voisins, en tentant d'aider ses voisins à éteindre un incendie. Voilà, c'était. Alors, qui était Léopold ? C'était un maître forestier et un des fondateurs, si vous voulez, de l'écologie moderne, tout simplement. On peut dire comme ça. Il a présidé à la constitution des premiers grands parcs nationaux américains. Il est un de ceux qui se sont battus pour que les dernières traces de vie sauvage soient préservées dans la mesure du possible. Mais ce livre, Almanach d'un comté des sables, part d'expériences en apparence beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples, beaucoup moins institutionnelles ou grandioses. Comme son nom l'indique, hein, Almanach d'un comté des sables, ce sont des notations classées de janvier à décembre, des notations qui vont de 1 à 3 par mois. Et qui simplement recueille des observations de Léopold, des observations authentiques qu'il a pu faire autour de son espèce de cabane, quelque part dans le Wisconsin, dans le comté des sables du Wisconsin, c'est-à-dire au nord-est des États-Unis, quasiment à la frontière avec le Canada, dans la région des Grands Lacs, une région qui avait été peuplée de fermes qui ont été souvent abandonnées dans les années 30 à la suite de la crise, dans le Dust Bowl, et qui ont été donc écologiquement ravagées par une surexploitation des terres. Léopold a mis un point d'honneur à racheter une ferme abandonnée et à reconstituer, à redémarrer une nature saine, une nature libre, sur cette terre épuisée par la surexploitation fermière. Et l'almanach du comté des sables, ce sont simplement les expériences d'un homme qui, semaine après semaine, habite là et observe les animaux, observe les plantes, coupe un arbre, chasse parfois, parce que il ne faut pas s'imaginer que l'écologisme à la Léopold, c'est un écologisme de l'abstention, du laisser-faire et de la de la jungle. C'est une expérience plus douce que ça. Mais je vous laisse la parole après cette présentation. Vous le connaissez d'où, vous, Céline Minard? Qui vous l'a fait découvrir? Depuis quand le connaissez-vous? Parce que là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Alors que je découvre après que c'est vendu à des millions d'exemplaires aux États-Unis depuis 1948, que c'est un classique du genre.
Voilà, je le connais depuis 1948 et enfin, j'attendais qu'il soit traduit quand même. Mais en fait, lui, c'est pas du tout roman, effectivement, parce que lui, il marche autour de sa ferme. C'est beaucoup plus petit. Ceci dit, Ramon, il marche dans un périmètre qui n'est pas si grand dans les Pyrénées. C'est pas du tout dans toutes les Pyrénées qu'il marche. Il marche autour de Maladeta, puis du Midi, Néouvielle, et puis voilà, c'est tout. C'est pas bon. Ça fait quelques hectares, mais c'est pas un pays entier. Hein. Mais lui, c'est encore plus petit et il marche vraiment qu'autour de sa ferme. Mais ceci dit, quand il marche la nuit, d'ailleurs, il y a une notation, je ne sais plus quel mois, où il marche la nuit vers 2-3 heures du matin, il se réveille et puis il fait le tour d'un territoire qui est beaucoup plus grand de nuit parce qu'il entend les oiseaux, les chouettes, toutes sortes de choses qui se passent au loin et qui sont déjà dans son territoire. Après, quand le jour se lève, ces oiseaux-là se taisent. Et lui est plutôt ornithologue, quand même. Et du coup, l'espace se rétrécit aussi parce que l'activité humaine arrive. Et il y a donc un aller-retour entre l'espace réel et l'espace perçu, qui est assez intéressant aussi et qui recoupe ces histoires de perception de Ramon. Mais voilà, moi, je voulais faire la transition avec Draba, mais je vais d'abord lire un premier truc... je trouve joli. Il y a des genres et des degrés de solitude. Une île au milieu d'un lac, c'est un genre de solitude. Mais les lacs ont des bateaux et on peut toujours espérer une visite. Une cime perdue dans les nuages, c'est un autre genre de solitude. Mais la plupart des cimes ont des sentiers et les sentiers ont des touristes. Je ne connais pas de solitude plus sûre que celle gardée par une crue de printemps. Les oies non plus, d'ailleurs, et elles ont vu bien plus de genres et de degrés de solitude que moi. Assis sur notre colline, à côté d'une pasque nouvellement éclose, nous regardons passer les oies. Je vois notre route qui s'enfonce doucement dans l'eau et je conclus, avec une jubilation intérieure mais un détachement de façade, que la circulation, dans un sens ou dans un autre, reste, pour aujourd'hui en tout cas, un sujet de discussion réservé aux carpes. C'est pas mal, hein ?
Ah oui, non, mais c'est... il a beaucoup d'humour aussi. Léopold, il faut le dire, beaucoup de ses descriptions sont empreintes d'un humour parfois grave d'ailleurs. C'est aussi quelqu'un, là pour le coup il a aussi le sens de l'histoire comme Ramon. Il peut partir d'un détail qu'un non-naturaliste ne remarquerait pas, et pour son œil de naturaliste à lui, ça lui permet de remonter très très loin. Dans les premières pages, vous avez la description par exemple d'une remontée dans le temps à partir des anneaux concentriques d'un chêne qui a été frappé par la foudre sur sa propriété et qu'il découpe pour en faire du bois à brûler. Et à mesure que la scie attaque les différents anneaux et remonte dans le temps à mesure qu'on approche du cœur du tronc, Léopold remonte dans l'histoire de la région du point de vue écologique. Voilà. Et c'est d'ailleurs très édifiant. On apprend des choses terribles sur la chasse industrielle en masse, sur l'extermination d'espèces entières. Enfin, c'est tout à fait effrayant. Et ce chêne a vécu une sorte de destruction d'une nature. Et ça, à partir d'un chêne, vous voyez, qui est couché là. Il y a un autre passage que j'ai beaucoup aimé où il décrit la disparition près de chez lui de la dernière fleur de silphium qu'il ait jamais vue. Alors, je suis allé béni sur Internet pour ce genre de choses. Hein. Google Images, vous tapez Silphium et vous voyez tout de suite cette grande fleur jaune avec une hampe très, 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 très haute et qui éclate en plusieurs fleurs jaunes à son sommet, qui peut atteindre 1,50 m de hauteur. Et en lisant Léopold, vous apprenez que c'était une fleur qui fleurissait par millions et sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés dans les grandes plaines à bison. Et voilà, 200 ans plus tard, Aldo Léopold envoie une de ses plantes, une par hasard, qui a survécu. Il n'y en a nulle part ailleurs, personne ne les voit, près d'une route, où d'ailleurs les automobilistes ne la voient pas non plus, parce qu'elle est masquée. dans l'angle aigu des deux murs d'un cimetière en forme de triangle, un cimetière triangulaire, et derrière, dans l'angle, pousse un dernier silphium, comme ça. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé, parce que l'angle est aigu. Donc la moissonneuse de la municipalité ne peut pas aller se fourrer dans cet angle. Ce qui pose un problème à la municipalité. Alors il casse les murs pour mettre un mur droit, et il retaille jusqu'à ce que le silphium soit exterminé. Tente de repousser, et finit par périr. C'est un détail de rien du tout, vous voyez, c'est l'histoire d'une fleur qui disparaît un été, que personne n'aurait remarqué. Et Léopold, en 2-3 pages, vous raconte cette fleur, sa disparition, et les bisons, et la disparition des bisons, et toute une histoire des États-Unis d'avant la conquête, d'avant la dérive vers l'Ouest, enfin, qui n'est pas... Ça, moi, là, pour le coup, je me suis demandé si vous aviez lu Ramon en écrivant R, je me suis demandé si vous avez lu Léopold en écrivant « Faillir être flingué », évidemment.
Eh ben non.
Non.
Ben alors, moi, j'ai envie de lire Drama.
Faites.
Parce que c'est une petite fleur aussi. Mais elle n'a pas disparu. Elle. Dans quelques semaines à peine, on est en avril. Draba, la plus petite fleur du monde, émaillera tous les endroits sablonneux de ses corolles minuscules. Celui qui attend fiévreusement le printemps en levant les yeux au ciel ne verra jamais quelque chose d'aussi infime que Draba. Celui qui désespère du printemps et garde les yeux au sol l'écrasera sans la voir. Celui qui cherche le printemps à genoux dans la boue la trouvera à profusion. Draba ne demande et n'obtient qu'une faible allocation de chaleur et de confort. Elle subsiste sur les reliefs de temps et d'espace dont les autres n'ont pas voulu. Les livres de botanique lui consacrent 2 ou 3 lignes, jamais une gravure ou un portrait. Le soleil trop maigre, le sable trop pauvre pour d'autres fleurs, meilleures et plus grosses qu'elles, suffisent amplement à Draba. Après tout, ce n'est pas une fleur de printemps, seulement un PS accolé à un espoir. Draba ne fait vibrer aucune corde sensible. Son parfum, à supposer qu'elle en est un, se perd dans les rafales de vent. Sa couleur, blanche, sans plus. Ses feuilles portent, fort raisonnablement, un manteau de laine. Personne ne la mange, elle est trop petite. Aucun poète ne l'a chantée. Un botaniste lui donna autrefois ce nom latin et l'oublia aussitôt. En un mot commençant, c'est un être sans importance. Rien qu'une petite créature qui fait son petit travail, vite et bien. C'est voilà, étonnant, cette espèce de regard très aigu sur ce qui l'entoure, très précis. Et je pense que c'est cette précision qui m'a fait aussi rapprocher Ramon de Carbonnière et Léopold. Parce que j'ai l'impression qu'ils cherchent tous les deux à extraire de quelque chose de très parcellaire ou de très... à extraire un système, en fait, et un monde, et les conditions de vie. Enfin, comme, effectivement, il le fait avec l'arbre qu'il coupe en remontant le cours de cette histoire d'une centaine d'années, c'est pas beaucoup plus. Hein. Et Ramon le fait aussi avec là où pousse la gentiane dentée, je crois, c'est-à-dire les étages de pelouse où elle apparaît et convoque autour de cette petite gentiane à la fois l'isard, le mouton, donc la culture et puis les climats et puis hop, il remonte au début du monde quand tout était que granit. Et lui, il fait pareil aussi dans un autre passage où il dit qu'il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est au début du texte. Il y a quelque chose qui passe. Et ce quelque chose qui passe, il passe d'un minéral à une rivière, à un animal, à une autre rivière, dans une plante. Il passe. C'est un atome, en fait. Et là, ça fait une espèce de grand, grand tour de monde en assez peu de temps. Enfin, en longtemps. Mais cet atome, il est immortel et il fait partie d'un tas de choses successives, quoi. Il y a quelque chose dans la succession qui se retrouve chez les deux, cette espèce de micro, de perception très fine. Et d'ailleurs, lui, il dit à un moment, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans son propos écologique, éthique et tout ça, bon, c'est que il dit ce qu'il faut chercher à développer. Parce que effectivement, il a contribué à faire que certains espaces soient des parcs régionaux, nationaux, etc. Il n'est pas le premier, hein, mais il y a activement participé. Mais il dit, bon, alors après, et puis on fait quoi dans ces parcs nationaux? On va construire des routes pour amener des touristes qui vont à nouveau déséquilibrer complètement. Alors est-ce qu'il faut faire des réserves absolues ou pas? Bon, bref. Et finalement, il dit, promouvoir la perception, voilà la seule branche vraiment créative de l'industrie du retour à la nature. Et que pour cette perception, on n'est pas obligé d'aller dans le Yosemite ou dans le Yellowstone, même si c'est pas mal d'y aller, enfin, et même si j'irais bien, je veux dire, mais on peut regarder derrière chez soi, effectivement, dans le coin du cimetière qui date un peu et que le faucheur municipal n'a pas abîmé. Partout, on peut regarder ce qui pousse encore, ce qui pousse là, et le voir. Alors que, et par ailleurs, il décrit. Il dit que les pionniers, ceux qui ont décrit les premiers cette nature, ne voyaient rien finalement et avaient un regard de surface absolue, et que le regard du naturaliste est bien plus épais et bien plus dense, et lui comprend, ce naturaliste, que la terre n'est pas le sol, que la terre était une espèce de grand truc complexe.
Il y a quelque part dans l'almanach, qui est un livre, mais par petites pages, vous voyez, c'est vraiment une lecture extrêmement douce. Il y a l'histoire d'un ours dans une montagne, d'un grizzly qui a été exterminé dans une montagne, et qui a été exterminé par les services de défense, quasiment par les services de défense de la nature. Il raconte en quelques pages le destin de cet ours. Il parle aussi de la disparition des loups dans les montagnes, les loups et du hurlement du loup et du sens que pouvait avoir le hurlement du loup. Qu'est-ce que veut dire le loup quand il hurle comme ça? On ne le savait pas. Puis le loup a disparu. Puis les cerfs ont commencé à proliférer et ont commencé à dévorer tout ce qu'il y avait à dévorer sur les montagnes, jusqu'à les peler et à les laisser absolument chauves et dénudés, rien que de la roche. Et que finalement, le loup, lui, faisait partie de la montagne, et que les hommes feraient bien d'apprendre à penser, non pas comme des chasseurs ou comme des hommes, mais qu'il faudrait apprendre à penser comme la montagne. Mmh. C'est une expression très très forte. Effectivement, la Terre n'est pas simplement une surface, c'est quelque chose de complexe, c'est un ensemble vivant. Et la montagne, c'est une expression quand même très très forte, la montagne aussi, elle a sa pensée, qui n'est pas à notre échelle, même pas à notre échelle de temps, et qui évidemment n'est pas du tout dans notre logique, une logique où le loup et le hurlement du loup a sa place. Et donc la violence s'inscrit naturellement. C'est un livre qui, sous sa douceur, raconte des choses extrêmement, extrêmement violentes aussi.
Oui.
Et vous ne m'avez toujours pas dit comment vous l'avez découvert, ce livre.
Non.
Vous l'avez donc lu en anglais?
Non, je ne lis pas l'anglais.
Non, vous attendiez sa traduction?
Non, je l'ai découvert par hasard, en fouillant un petit peu autour de Toro, etc. Je ne sais pas comment on dit. Et on finit par tomber là-dessus.
Oui, mais les Américains ont une tradition de livres de ce type, effectivement, qui remonte à Walden et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Silent Spring de Rachel Carson en 62. Enfin, ils ont une tradition comme ça de livres qui sont à la fois très très doux.
Et John Muir aussi.
Et John Muir, ouais, qui sont extrêmement doux, extrêmement concrets dans leur description et très militants en même temps. Et qui sont des objets littéraires superbes.
Oui. Oui. Ah oui, c'est quand même assez bien écrit.
Ah oui.
Je vais en lire un petit passage parce que c'est assez.
Volontiers.
Sur l'observation, justement. Un jour, je m'enterrais à plat ventre dans la boue d'une maison de rats musqués. Tandis que mes vêtements s'imprégnaient de la couleur locale, mes yeux s'imprégnaient des coutumes du marais. Une femelle morillon à tête rouge me croisa avec son convoi de canetons, petite peluche de duvet vert doré au bec rose. Un râle de Virginie me frôla. L'ombre d'un pélican glissa au-dessus d'un bassin où un chevalier à pattes jaunes venait de se poser avec un doux sifflement liquide. Je compris alors que s'il m'arrive d'écrire un poème par un grand effort cérébral, le chevalier à pattes jaunes en marche en écrit un bien meilleur, rien qu'en levant le pied. Un vison remonta sur la berge derrière moi en ondulant, né au vent. Il suivait une trace. Les troglodytes des marais faisaient des allers-retours incessants jusqu'à un bosquet de joncs enchevêtrés d'où sortait une clameur d'oisillons. Je commençais à m'assoupir au soleil lorsque je vis surgir de l'étang un œil rouge et farouche enchâssé dans une tête d'oiseau. Comme tout était silencieux, le corps argenté émergea à son tour, grand comme une oie, fuselé comme une torpille. Avant que j'aie pu voir d'où et comment, une deuxième grève apparut, installée sur son large dos, je vis deux petits couleurs de perles argentées joliment enclos dans un corral de plumes retroussées. Tous les quatre disparurent dans un tournant avant que j'aie pu reprendre haleine. Puis j'entendis la clochette, limpide et moqueuse, derrière l'écran des roseaux. Puis ils vont peut-être se faire bouffer le tournant d'après. C'est ça la douceur, son joliment machin dans les plumes, mais enfin, il y a peut-être un renard pas loin.
Il a ce sens, Léopold, de l'espace qui s'offre à la description et qu'en même temps, il invente, en quelque sorte, il n'exalte pas ce mot, mais qu'il invente dans la description. C'est un grand lecteur de traces dans la neige, mais dans la boue aussi, pas seulement. Et on retrouve ça tout le temps dans Faillir être flingué, dont j'aurais pu parler peut-être un tout petit peu plus, parce que, entre parenthèses, si vous n'avez pas lu Céline Minard, ce livre-là a eu le prix, alors je ne sais plus si c'est 2014, mais je crois que oui, hein, 2014, le prix des lecteurs France Inter en 2014, qu'il ait eu le prix des lecteurs, ça vous garantit en quelque sorte que c'est un livre qui est d'accès, là pour le coup, relativement facile. C'est un roman extrêmement séduisant dans son abord, d'accord, et qui vous embarque dans des méandres. Alors après, ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages qui convergent vers un point sans le savoir, qui arrivent en ce point et qui de là vont commencer à repartir. Des histoires de pionniers, justement, qui vont traverser des étendues énormes dans la profondeur du paysage américain. Et ce sont des personnages qui, escortés par l'œil de la romancière, là, pour le coup, font exister le territoire en le parcourant et qui sont tous sont soit des marcheurs, soit des galopeurs, forcément. Mais j'ai rarement lu un roman où il y a tant d'espace qui soit sillonné de tant de façons différentes. Et j'avais été frappé notamment par une formule qui se trouve page 103, alors qu'un des personnages se retrouve dans une grotte qui est décorée de peintures qui datent de bien avant lui, de peintures des premiers habitants du Nouveau Monde. La cavité dans laquelle il s'était recouché était comme un voyage au-dessus du sol. Sans que l'esprit soit obligé de sortir du corps, il parcourait de grandes distances en un clin d'œil et passait tout aussi vite de l'hiver à l'été quand il ne les habitait pas simultanément. Le plafond de sa chambre improvisée racontait une histoire en même temps qu'un territoire. Le déplacement de l'œil, suivant celui de la main qui avait tracé les formes et posé les couleurs, faisait surgir le monde en le parcourant. Bird resta longtemps le nez contre la voûte, ignorant les manifestations de son estomac, puis il se dit qu'il pouvait descendre, manger et revenir après. Raconter une histoire en même temps qu'un territoire. Quand j'ai lu cette phrase, et un peu plus bas, faire surgir le monde en le parcourant, j'ai compris pourquoi vous vous intéressiez tellement à la marche. Et c'est quelque chose, c'est une expérience, cette expérience de faire surgir le monde en le parcourant, c'est une expérience qui revient souvent de façon plus ou moins nette, plus ou moins explicite, dans Faillir être flingué. Un autre personnage qui s'appelle Brad, avant de se poser et de fonder sa ferme, lui aussi marche inlassablement, parfois même jusqu'à une soixantaine de miles de l'aube au coucher. Et donc presque 100 km par jour, hein. En prenant toujours par des chemins différents, il pensait à sa vie passée, il lui semblait parfois marcher pour dénouer ou atteindre en lui une place vide et douce, éloignée des courants, un apaisement. cette expérience de la marche qui à la fois déploie un espace et qui isole un point vide de sérénité en vous, c'est quelque chose qui traverse beaucoup Faillir être flingué, alors pourtant que c'est un roman, mais qui alors là, si vous aimez les rebondissements, c'est difficile d'en mettre plus dans un seul roman. C'est un roman qui littéralement est plein à craquer de rebondissements de type western, hein, vous l'aurez compris, c'est un western.
Oui, c'est très clair, hein, ce que vous avez lu.
Hein, c'est ça. Ça ne saute peut-être pas aux oreilles, mais c'est bel et bien de l'espace de l'Ouest américain qu'il est question. Voilà. Et c'est pour ça que je me demandais si vous connaissiez Aldo Leopold avant d'écrire ce livre. Ben non, c'est encore une simple parenté de comme ça, de parenté d'esprit entre votre écriture et celle-là.
Oui. Il nous reste. C'est vrai que parcourir et inventer et parcourir en même temps. Enfin, c'est le même geste effectivement. Et ça, c'est peut-être une des obsessions qui pourrait relier certains de mes livres entre eux.
Il nous reste très très peu de temps pour parler un tout petit peu de Tchekhov tout de même. Ce serait dommage de ne pas en parler puisque nous avons Ivanov dans la grande salle. Vous avez aussi choisi la steppe.
Oui, parce que c'est quand même l'inverse de la montagne. C'est quand même là, voilà. Et je me disais qu'il fallait, pour situer les Pyrénées, un peu un Américain et un Russe. Voilà. C'était bien aussi, et puis...
Comme ça, question géographie,
voilà. On est assez complet. Voilà, et je voulais lire un petit bout, là, je peux lire un petit bout quand même.
Bien sûr.
Où on sent bien que c'est plat. Les blés moissonnés, les herbes folles, le forbe, la chenevière, toutes les plantes brunies par la chaleur, roussies et moitié mortes, se laissaient laver par la rosée, caressées par le soleil, et reprenaient des forces pour refleurir. Au-dessus de la route, des pluviers volaient avec des cris joyeux. Des icelles se répandaient dans l'herbe et quelque part au loin, sur la gauche, on entendait pleurer des vanneaux. Un vol de perdrix, effrayé par la calèche, s'éleva à tire-d'aile et avec un frt mat, s'envola vers les collines. Les sauterelles, les cricris, les grillons et les criquets entonnèrent dans l'herbe leur musique grinçante et monotone. Mais bientôt, la rosée s'évapora. L'air se figea et la steppe leurrée reprit cet aspect morne qu'elle offre habituellement en juillet. L'herbe s'était affaissée, la vie s'était engourdie. Tout paraissait maintenant infini, pétrifié par l'ennui. Les collines brûlées, brunes et vertes, violettes à l'horizon avec leur teinte discrète comme l'ombre, la plaine avec son lointain brumeux et renversée au-dessus d'elle, ce ciel qui, dans la steppe sans arbres ni haute montagne, paraît terriblement haut et transparent. Quelle chaleur et quel ennui! La calèche file et pourtant Yegorushka voit toujours la même chose, le ciel, la plaine, les collines. Dans l'herbe, la musique s'est assourdie. Les pluviers se sont envolés et les perdrix ont disparu. Pour tromper leur ennui, des freux planent au-dessus de l'herbe terne. Ils sont tous pareils et cela fait paraître la steppe encore plus monotone. Un épervier tournoie très haut, battant des ailes d'un mouvement harmonieux. Tout à coup, il s'arrête en plein vol et paraît méditer sur l'ennui de l'existence, puis secoue ses ailes et file comme une flèche au-dessus de la steppe, et on se demande pourquoi il vole et ce qu'il cherche. Au loin, les ailes du moulin tournent toujours. Mettant une note de diversité, un crâne blanchi ou une grosse pierre apparaissent soudain au milieu des herbes. Ou bien c'est un menhir qui surgit pour un instant, ou un saule desséché, avec un rollier perché sur sa plus haute branche, ou encore, c'est un mulot qui traverse la route, et de nouveau, ce ne sont plus que des herbes, des collines, les freux. Mais Dieu merci, voilà un chariot chargé de gerbes, avec une fille couchée tout en haut. Ouf. Mais là, c'est pareil, on va très très précisément dans le regard avec ce mulot qui traverse la route, enfin, on voit même le mulot qui traverse la route. Alors, cette plaine très plate, là, elle est pourtant vraiment pas ennuyeuse, contrairement à ce qu'il essaye de faire sentir. On le sent quand même, l'ennui, la chaleur, tout ça. Et ce truc très monotone, ou même un crâne, ça fait déjà toute une histoire. Et c'est... Ça, c'est un livre superbe, d'une grande densité. Ça, c'est tout plié. Et en même temps, c'est un moment très court, c'est un voyage de 2-3 jours, je crois.
Un peu plus, oui.
Où le gamin, c'est un gamin qui part d'un village qui s'appelle N ou Z, et qui va en fait dans une ville plus grande et qui va devenir lycéen. Et vraiment, ce voyage de quelques jours, c'est tout son passage à, et on a des sensations de nature, de grand, de steppe, de choses très effrayantes et très petites choses aussi. Il attrape vaguement un rhume, c'est toute une montagne, et il va s'en remettre dans la nuit, hein. Mais tout va très vite aussi, voilà. Et son pivot, le pivot de son âge va très vite dans cette plaine très plate qui est quand même bourrée d'histoires. Et une baignade qui est super belle et tout. Bon, il y a un orage aussi qui est absolument magnifique. Et ça, c'est d'une densité rare.
C'est un des chefs-d'œuvre de Tchekhov. Il le sentait, il le savait sans doute lui-même. C'est un des textes qu'il a le plus travaillé. Il y a travaillé plusieurs mois. Et il y a travaillé justement à peu près à l'époque où il travaillait sur Ivanov. Il l'a écrit entre ces deux Ivanov. Entre l'Ivanov de 87 et l'Ivanov de 89, il a écrit La Steppe, début 88, si je me souviens bien, sur plusieurs mois. D'après la correspondance de Tchekhov, il s'y est repris, il a beaucoup travaillé, il a cherché justement à éviter. Comment dire, il y a des romans qui sont des portraits, des romans qui sont des paysages, des romans qui tiennent un peu des deux, comme par exemple « Faillir être flingué », qui est une sorte de portrait de groupe éclaté dans un paysage. La steppe, le danger, Tchekhov a dû le sentir, c'est que ça devienne une sorte de pur paysage décoratif, presque virtuose, de maître de la description. Voilà. Et il enchaîne avec une virtuosité magnifique les paysages extrêmement concrets, avec les notations d'atmosphère, les notations de couleurs, qu'il sait tout de suite pénétrer d'une coloration émotionnelle ou métaphysique en posant l'ennui, la monotonie. C'est très finement fait. Et comment faire pour éviter que cette virtuosité ne tourne à vide ou ne se voit trop et soit variée, modulée, presque musicalement, en racontant bel et bien une aventure, mais une aventure qui repose sur presque rien. Les quelques jours d'un voyage, d'un enfant quelconque, presque anonyme, un gamin de 12 ans, qui effectivement ne le sait pas encore, mais dit adieu à son enfance en franchissant cet espace de la steppe pour aller rejoindre la ville où il sera pensionnaire. Tchekhov s'est acharné à travailler son texte pour lui donner cette plénitude en même temps légère, sans qu'il y ait, voyez, en termes de peinture, on dirait sans qu'il y ait trop de vernis, sans que la pâte soit trop épaisse. Mais alors pourquoi s'y est-il acharné à ce point? C'est peut-être parce qu'il a écrit ce texte donc en même temps qu'Ivanov. C'est un des trois grands textes de Tchekhov à ce moment-là, et ce sont c'est un moment charnière dans la carrière de Tchekhov. C'est le moment où Tchekhov gagne une sorte de maturité d'écrivain, où il cesse d'écrire des contes purement humoristiques ou un peu légers, comme ça, pour des revues. Et tout d'un coup, il arrive à une maturité, à une plénitude d'écriture qui est d'un tout autre ordre. Comme le dit Léon Chestov dans un très bel essai qu'il a consacré à Tchekhov, il y a eu une cassure dans sa biographie, une cassure secrète, on ne sait pas, mais quelque chose visiblement a été vécu par Tchekhov qui lui a donné accès à cette espèce de nouvelle gravité. En fait, Chestov ne le savait pas, mais quand on lit la correspondance de Tchekhov et qu'on se penche un peu sur sa vie, on constate que La Steppe, Ivanov et un troisième conte magnifique qui s'appelle Une banale histoire, qui est aussi un de ses chefs-d'œuvre, ce sont sans doute les trois produits du moment où Tchekhov, pour la première fois, a craché du sang et a compris qu'il était tuberculeux, qu'il allait mourir. Et d'une certaine façon, La Steppe, c'est Tchekhov qui retraverse son enfance, parce que ce voyage, c'est lui qui l'a fait, et au même âge, C'est Tchekhov qui retraverse son enfance, qui reprend, comme Anté, le géant de la mythologie, qui reprend contact avec le sol de la steppe pour y puiser quelque chose avant de continuer au-delà. Ça répond, si vous voulez, à une banale histoire, qui est au contraire l'histoire d'un médecin de 60 ans mourant, qui se retourne sur sa vie déjà accomplie, qui est comme un autre point d'un Tchekhov possible, un Tchekhov qui n'aurait pas été écrivain, qui serait devenu médecin à succès, universitaire, et qui aurait vécu une vie de médecin, qui l'aurait conduite à son terme, comme sur d'autres destins possibles. Alors que là, on est encore dans la possibilité du destin à venir. Là, on est dans un personnage d'enfant qui capte, qui mange le monde par les yeux, sans même s'en apercevoir. Et le résultat, effectivement, c'est un très très beau texte.
Très beau.
Très très beau.
Je peux vous lire l'orage ?
Ah oui, volontiers.
Ça couve depuis un moment. Il y a eu deux fausses alertes déjà. La pluie tardait bizarrement à tomber. Espérant que le nuage allait peut-être passer au large, Yegorushka sortit la tête de sous son abri. Tout était terriblement noir et il ne put distinguer ni Panteley, ni le ballot, ni même son propre corps. Il loucha vers l'endroit où tout à l'heure il avait vu la lune, mais là aussi l'obscurité était aussi épaisse qu'autour du chariot. Au milieu des ténèbres, les éclairs paraissaient encore plus blancs, plus aveuglants. Yegorushka en avait mal aux yeux. « Panteley » appela-t-il. Il n'eut pas de réponse. Mais voilà qu'enfin le vent secoua la natte, une dernière fois, et s'enfuit quelque part. On entendit un bruit calme, régulier. Une grande goutte froide tomba sur le genou de Yegorushka, une autre rampa sur sa main. Il remarqua que ses genoux n'étaient pas couverts et voulut arranger la natte lorsque soudain quelque chose s'éparpilla avec bruit sur la route, puis sur les brancards, puis sur le ballot. C'était la pluie. On aurait dit qu'elle et la natte s'étaient comprises, qu'elles s'étaient mises à bavarder très vite et très gaiement comme deux pies, et ce bavardage remplit Yegorushka de dégoût. C'est super fort ça, parce que c'est très court, hein. Et on a tout, et en même temps, il n'y a pas d'image déjà fabriquée. L'orage, il arrive, il y a une goutte, puis une autre, il y en a une qui tombe en piquant, il y en a une qui rampe. On n'est pas du tout dans le « ah, paf, ça tombe d'un coup ». Et puis quelque chose s'éparpille avec bruit sur la route. Et ça c'est vraiment une image complètement originale, inventée, et qu'on comprend immédiatement. Et c'est là où c'est très très, très, très fort.
Et ce qu'on comprend en effet, c'est que ce qui arrive avant qu'on l'ait nommé ou reconnu. C'est vrai. On a tous vécu ces instants où la pluie, le vent, le naturel, quelque chose surgit, on n'a pas eu le temps de le reconnaître, que l'effet est déjà là.
Oui, ouais. Et oui. Et là, quand il dit le vent passe un grand coup puis s'enfuit, ça c'est. C'est extra. Et qu'est-ce qui reste ? Ah, le truc juste avant que ça pète. Et c'est très sensible. Et c'est, voilà. Ça, je trouve ça. Et puis après, que la pluie et la cape discutent entre elles. Et lui, il est dégoûté parce qu'il va se faire tremper. Il va attraper un rhume.
Oh, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. D'ailleurs, les contemporains ne s'y sont pas trompés. C'est le texte qui a valu à Tchekhov le prix Pushkin. Très prestigieux, évidemment, Pushkin, pensez, le prix Pushkin, à partir de ce moment-là, il a vraiment été reconnu comme écrivain. Et c'est un de ses textes les plus secrets, les plus discrets, les plus secrets. Ça ne m'a pas étonné que vous ayez choisi ce texte-là, parce que vous-même, on n'a pas le temps d'en parler, mais vous avez aussi un sens de la discrétion et du secret qui sont... Et des mondes secrets et des mondes minuscules qui pour le coup... avec un tempérament très très différent, est très très tchékovien aussi. Dans le minuscule, dans le trois fois rien, dans la toute petite notation, réussir à dégager tout un monde, toute une ouverture qui vous happe. Ça, c'est quelque chose que vous avez en commun.
Bon.
Mais.
Vivement voilà. Le prix Pushkin.
Je vous le souhaite. Céline Minard, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.